Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagnés d'un ornithologue.
Ornitho-quoi ?
Le blaireau. Pour faire ma barbe, je fais un blaireau. Graines de rhubarbe, graines de poireau.
Par mes poils de barbe, s'écrit le blaireau, graines de rhubarbe, graines de poireau. Tu feras ta barbe avec un poireau, graines de rhubarbe, t'auras pas ma peau.
Robert Desnos.
Bonjour à toutes les escapadeuses et tous les escapadeurs, nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et accessoirement le deuxième mercredi du mois. Il est 9h31, c'est le moment où votre ornithoquoi s'installe derrière le micro pour une nouvelle émission naturaliste en direct depuis les studios de Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. Alors voici le programme de votre émission ornitho préférée, avec pour commencer un peu de musique. Oui, des questions de moineaux. On enchaînera avec le NaturoQuiz de Lily, puis l'ActuPiaf avec des nouvelles des oiseaux du coin. C'est encore l'hiver, mais on sent que le printemps n'est pas loin. En tout cas, les oiseaux s'y préparent. Je vous raconterai tout ça. Ensuite, une petite revue de presse dans le NaturoActu, et enfin le VocabuPiaf, où on fera un peu d'étymologie. On terminera cette première partie avec la réponse à la devinette de Lily. Une fois que nous aurons fait tout ça, on fera une nouvelle pause musicale et poétique, avec toujours les enfants de l'école de Sumène qui nous offrent quelques poésies qui ponctuent cette émission. Puis, on poursuit cet ornithoquoi avec rencontre avec Homo sapiens. Et là, c'est Cécilia qui vous a préparé une séquence audiophonique résumant la résidence d'artiste que nous avons faite en janvier au collège de Saint-Hippolyte-du-Fort. Résidence pour notre projet ornitho-artistique à Ocel qui prend une nouvelle tournure. Enfin, nous terminerons cet ornithoquoi en musique et en poésie. Nous sommes le mercredi 14 février 2024, vous êtes en direct sur Radio Escapade, vous écoutez l'ornithoquoi avec Béranger au micro et Fabien en face de moi qui pousse, appuie, tourne les boutons. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans votre fauteuil et à mettre vos oreilles sur écoute. Allez, c'est parti, on commence cette émission en musique.
Gratuitement, alors qu'aujourd'hui tout se paye. Qui nous souhaite une belle journée, même quand il pleut sur nos gueules. Toi qui nous regardes passer à la même cadence que la veille. Toi qui es assis par terre quand on s'installe au bistrot, tapant sur une canette de bière pour faire danser les moineaux. Sous le regard des pigeons qui disent quel drôle d'oiseau. C'est donc ça la vraie misère quand y a pas de tête dans le chapeau. Toi qui as été enfant et qui a grandi avec les grands discours des grands-parents disant que la vie a un prix. Les grands discours des dirigeants dictant le prix de la vie. Les grands discours des bien-pensants clamant que la vie c'est joli. Tu dois plus rien y comprendre maintenant. Toi qui as peut-être tout perdu, ou qui n'a jamais rien gagné, qui croit encore au miracle, mais plus en l'humanité. Si tu mets tes mains dans les poches, c'est pour en sortir un ticket, te donnant droit à une brioche qui te fait l'effet d'un banquet. Et nous on te passe à côté, un Starbucks à la bouche, à 8 balles le café, y'a même personne qui trouve ça louche. On le descend en 3 gorgées, avec le sourire à l'envers. Je vais leur coller un procès, parce que cette merde est trop amère. Tu nous regardes avancer, en même temps qu'on fait marche arrière. Pendant que tu rêves de nos journées, nous on les vit comme un enfer. On se bat pour tout avoir, et quand c'est fait on veut autre chose. On repart l'arc-en-ciel en noir, espérant voir la vie en rose. On oublie de s'émerveiller devant les acacias en fleurs. Parce que tu dors à leurs pieds, sur ton carton de valeur. Et si on devine ta bonté, on ne voit même plus ta douleur. Quand tu nous souhaites une belle journée, alors qu'il pleut sur ton cœur. Tu as fait du pavé, ton plus beau tapis d'Orient. Ta maison a 6000 rues et 10 413 bancs. Les lampadaires sont chandeliers, accrochés au firmament. Et si le vent vient te chasser, tu l'accompagnes au marchand. Dès que l'hiver sera là, tu t'en iras discrètement. Personne ne remarquera que ton poste est resté vacant. Les hirondelles reviendront au dernier jour du printemps. Sans racines et sans ailes, déposer ton remplaçant. Au premier jour de l'été, j'irai m'asseoir dans ce bistrot d'où je te voyais chanter pour faire danser les moineaux. Ils seront des milliers et tu seras l'un d'entre eux. Tu me souhaiteras une belle journée et il pleuvra dans mes yeux.
Nature Quiz.
Une devinette nature concoctée par notre animatrice en herbe.
Bonjour à tous, voici la question nature de ce mois-ci. Elle est tout simple, qu'est-ce qu'un feston ? Allez, je vous donne un indice. Ce sont les algues qui festonnent en ce moment. Réponse tout à l'heure, avant la pause musicale.
Actu Piaf, des nouvelles des oiseaux de la région au fil des saisons. Voici, pour continuer, voici l'Actu Piaf et quelques nouvelles des oiseaux du quartier. Il fait encore froid, mais le printemps n'est pas loin. Les oiseaux s'y préparent. On commence à entendre chanter sérieusement dans les bois. Les griffes musiciennes s'en donnent à cœur joie depuis quelques jours et babillent. Les pigeons ramiers commencent à caracouler. Les mésanges zinzinulent, les hulottes ululent. Enfin, vous l'avez compris, les oiseaux commencent à chanter. La saison des amours approche. Il y en a même qui commencent à construire des nids. Tiens, parlons-en de cela. Je parle des aigles, évidemment. En premier lieu, l'aigle de Bonelli. Certains couples des Bouches-du-Rhône et même du Gard ont déjà pondu depuis quelques jours. Ici, le couple local ne devrait pas tarder. Après pas mal d'interrogations et même d'inquiétudes, car on n'observait plus les oiseaux sur leur site pendant plus de 15 jours, ils sont revenus et un nid est prêt. C'est-à-dire rechargé de branches fraîches pour y déposer un ou deux œufs d'ici quelques jours. On va surveiller tout ça. Pour l'aigle royal, le couple local semble avoir choisi un nid également, qu'il commence tout juste à recharger de branches. Leur saison de reproduction est un petit peu décalée par rapport au bonelli plus précoce. On va continuer à suivre tout cela de près, et je vous tiendrai informé dès le mois prochain, où on aura les idées plus claires, et surtout où les migrateurs seront revenus, enfin la plupart. Je pense au vautour percnoptère qui ne va pas tarder, les milans noirs, et peut-être même quelques cirquettes qui arriveront en mars. Alors, encore une fois, soyez attentifs, ouvrez les yeux et les oreilles, et sortez vos jumelles. Nature Actu.
L'actualité naturaliste internationale, nationale et locale, sélectionnée par votre ornithoquois.
Une publication que vous avez peut-être vue passer, qui est sortie hier, je crois. La situation des espèces migratrices inquiète la communauté internationale. Encore des bonnes nouvelles. Un rapport de l'ONU publié lundi 12 février alerte. Le rapport est inédit, le constat alarmant et les chiffres toujours plus inquiétants. Une espèce migratrice sur 5 est menacée d'extinction. 44%, voire même leur population baissée. Et la quasi-totalité des 58 espèces de poissons est concernée. Le phénomène migratoire lui-même est en danger parce qu'il existe des barrières et que les habitats dont ces animaux ont besoin peuvent se trouver sous pression, défend Ami Falkel, secrétaire exclusif à la Convention des espèces migratrices. Des espèces menacées directement, d'après la Convention, par les activités humaines. L'agriculture intensive, encore elle, la chasse, la pêche ou encore le changement climatique sont notamment pointés du doigt. Et la liste des animaux menacés est loin d'être exhaustive, d'après le rapport, puisque 400 autres espèces ne sont pas encore répertoriées. Un article du Nouvel Obs, un petit peu long, donc j'ai essayé de vous en sortir un extrait. Article qui revient sur la crise agricole en France et qui parle de l'OFB. L'OFB, dans le viseur des agriculteurs, la pression exercée par cette police sur le monde agricole est faible. C'était avec des guillemets. C'est l'une des principales concessions accordées par Gabriel Attal aux agriculteurs pour éteindre la colère. Le Premier ministre a répondu favorablement à la demande de la toute-puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole, la FNSEA, l'organisme professionnel majoritaire du secteur en France, en annonçant la mise sous tutelle par les préfets des agents de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui assure la police de l'environnement. Objectif revendiqué du gouvernement, faire baisser la pression des contrôles. Pendant les manifestations agricoles, les antennes de l'OFB ont par ailleurs été prises pour cible à coups de purins ou de feux de pneus et des agents menacés. Hasard du calendrier, trois chercheurs publient ces jours-ci une enquête consacrée à ces policiers de l'environnement. Une publication qui s'appelle « Police environnementale sous contrainte ». Dans leur analyse, on peut lire « Mais si l'OFB est à ce point dans le viseur des syndicats agricoles, ce n'est pas tant en raison du nombre de contrôles qu'ils effectuent. L'office est devenu le symbole d'un rapport à l'État que rejettent les syndicats. La portée répressive de l'OFB tranche en effet avec d'autres administrations auxquelles les exploitants agricoles ont affaire pour percevoir des subventions. De plus, poser la police de l'environnement en adversaire commun permet aux syndicats majoritaires d'unifier leur profession hétérogène et traversée par des contradictions internes. Alors que l'agriculture familiale disparaît au profit d'une agriculture de firme, mettre l'accent sur l'OFB a l'avantage d'orienter les critiques vers un acteur qui n'est pas agricole. Les forces de police traditionnelles, comme la police nationale, ont pour principal objectif de veiller à la conservation de l'ordre établi. Et pour y parvenir, elles bénéficient d'une forte légitimité. Quand les policiers interviennent pour constater un fait de violence, ils n'ont pas à se justifier. L'immense majorité des citoyens est convaincue qu'un tel acte mérite sanction. La police de l'environnement a ceci de singulier qu'elle doit à l'inverse contribuer à faire advenir un nouvel ordre et convaincre chacun d'entre nous que la protection des milieux naturels doit s'imposer. Elle nous force à regarder l'environnement d'un autre œil et vise à construire une société durable qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est ce que rend sa mission si difficile. Quand elle agit pour sanctionner le drainage d'une zone humide ou un usage abusif de l'eau par un agriculteur, elle est largement contestée ou incomprise. Résultat, c'est une police qui, pour l'instant, se caractérise davantage par ses faiblesses que par sa force, par les contraintes qui l'empêchent d'agir plus que par la force contraignante qu'elle peut réellement exercer.
Vocabupiaf. On vous explique le langage mystérieux des naturalistes.
Ce mois-ci, on va faire un peu d'étymologie. Si je vous dis rossignol philomel, Turdus philomelos, qui est le nom scientifique de la griffe musicienne, cela vous évoque quoi? Tout d'abord, philomel nous rapporte à la légende grecque de Philomèle changée en rossignol, pour ceux qui ont la référence bien sûr. Mais philomel veut dire aussi ami du chant, celui qui aime la mélodie. Ce qui convient parfaitement à ses maîtres du chant. Mélos est d'ailleurs employé en grec pour désigner le chant du rossignol. Attention à ne pas confondre avec philomélos, qui a un autre nom d'oiseau, mais qui veut dire celui qui aime les pommes. Et jusqu'à preuve du contraire, la consommation de fruits ne procure pas une belle voix.
Naturo quiz.
Une devinette nature concoctée par notre animatrice en herbe.
C'est le moment de la réponse au Naturo quiz. Je vous rappelle la question. Question courte, mais pas facile. Qu'est-ce qu'un feston? Si on regarde un dictionnaire, cela peut être plusieurs choses. Premièrement, une guirlande de feuilles, de fleurs ou de fruits dont on décorait les façades des maisons au jour de fête. En deuxième, un feston est un ornement sculpté dans le bois ou la pierre ou peint en forme de guirlande. Et enfin, une troisième définition qui nous intéresse plus et qui concerne les aigles. Ce sont les vols qui effectuent lors des parades en ce moment. C'est une alternance de piquets, de planés ou de battus, produisant un vol ondulé, un peu comme des guirlandes suspendues en fait. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Naturo Quiz.
Et voilà, ben merci Lily, c'en est fini pour cette première partie de l'Ornithoquoi sur Radio Escapade. On continue cette émission en chanson, puis en poésie.
Addicted.
Il se prend pour un épervier. Plume de coq sur l'épaule, duvet de poule sous l'aisselle. Il se prend pour un épervier.
Bas des bras, bas des mollets, décolle à tire-d'aile, atterrit sur son paillasson.
Ses brouets ne suffit pas pour s'envoler. Nécessaire la queue, nécessaire les plumes au derrière, lui rappelle la chouette âgée de 100 ans.
Liam.
Ewen.
Leonino.
Devant le collège de la Galaberte à Saint-Hippolyte-du-Fort, il y a des couples de choucas des tours, des groupes d'étourneaux sans sonner, des nuées de pigeons bisés, des collégiens qui attendent l'ouverture de l'établissement, des voitures qui passent, des personnes à la terrasse d'un café. Pendant environ un mois, du lundi 8 janvier au vendredi 2 février, nous avons été en résidence dans une salle du collège. Être en résidence, c'est tout remettre à plat. C'est travailler, questionner, réinterroger, organiser, argumenter ce projet ornitho-artistique qui a débuté en mai 2021 et qui se nomme Aucel.
Je m'appelle Solène et je suis conteuse. J'ai la chance d'être conteuse. Ça veut dire que je passe la plupart de mon temps dans les histoires, soit à les raconter, soit à les chercher, soit à les écouter. Et donc je passe mon temps dans les imaginaires des uns, des autres, les imaginaires du temps passé et puis les imaginaires d'aujourd'hui. J'ai une partie de mon activité, de mettre en scène, enfin dire ces histoires pour en faire des spectacles. Souvent avec des thématiques choisies. Et une autre partie de mon activité, c'est des ateliers, la plupart du temps dans les collèges, mais aussi dans les écoles primaires ou lycées. Et un petit peu en crèche aussi.
Qu'est-ce qui t'attire dans cette pratique-là ?
Faire vivre les imaginaires, nourrir les imaginaires, les réveiller s'ils se sont endormis. Pour moi, c'est important de muscler les imaginaires aujourd'hui pour qu'ils aient encore leur place parce qu'ils... Les imaginaires subissent beaucoup d'assauts aujourd'hui avec les images toutes faites sur les écrans qui colonisent. Et ces images, comme elles sont toutes faites, elles colonisent facilement les imaginaires. Donc pour moi, il faut muscler son propre imaginaire en s'appuyant sur les imaginaires collectifs.
Et l'oralité ? Aussi.
Oui, et ben ça c'est vraiment ce que j'essaye de défendre dans les ateliers, de passer d'abord par l'oral, parce que on a tendance, comme on est une société de l'écrit et où l'écrit est sacré, on a tendance à demander de savoir écrire avant de parler, et de passer par l'oralité, ça aide à structurer sa pensée. Ouais, à faire les ponts entre les idées, les images, les mots. Ça aide à déployer, en fait, à déployer sa pensée, son imaginaire.
Comment est-ce que tu travailles ?
En fait, l'entrée dans le travail, elle est soit par une thématique. Donc si, par exemple, on me demande des contes sur les plantes, par exemple, ou sur les oiseaux, bah, je vais chercher tous les contes que je peux trouver autour de la thématique. Donc Évidemment, on se sert de l'écrit parce qu'ils ont été collectés, ces comptes, et heureusement. Nous, on travaille sur l'oralité, mais en vrai, on se sert énormément des collectages écrits. Et donc on trouve...
Pas trop des collectages oraux, plutôt des collectages écrits, plutôt des recueils de comptes ou...
Oui, parce que, en fait, l'avantage de partir des collectages écrits, c'est que, en fait, on essaye de trouver les squelettes des histoires, on va dire. Parce que si on écoute un conteur, il aura déjà fait son travail de conteur artistique, et du coup, bah, après, c'est très difficile de faire le sien, de faire... En fait, il y a une image qui est assez parlante, je trouve, pour le travail du conteur. C'est que donc, nous, on essaye de trouver le squelette de l'histoire. Et donc, en croisant les versions, on se rend compte que, voilà, il y a des versions d'un côté du monde, de l'autre côté du monde, et on essaye de voir qu'est-ce qui ne bouge pas dans l'histoire, qu'est-ce qui est le squelette de l'histoire. Donc, nous, on part de ce squelette, et le travail du conteur, il est de rajouter... les muscles, la peau, la fourrure et le regard, on va dire. Donc c'est un peu ça notre travail artistique. C'est comment nous, on va habiller ce squelette. C'est l'image d'un conte qui s'appelle la Loba, où c'est une vieille femme qui ramasse tous les os des loups. Et elle, avec tous les os qu'elle trouve, elle reconstitue le squelette. Et puis ensuite, elle va danser, chanter, jouer de la musique autour de ce squelette pour reconstituer ses muscles, sa chair, sa peau, sa fourrure et laisser partir le loup ensuite. Donc en fait, on aime bien comparer le travail du conteur à ça.
Et sur les oiseaux, du coup, t'es allé chercher dans quel corpus, on va dire ?
Bah, déjà la demande elle était un peu sur les oiseaux qui nous entourent, donc déjà ça resserrerait un peu les choix, enfin en tout cas ça guidait les choix, et c'était pas mal sur même des espèces en fait. Finalement on a essayé de trouver, par exemple Béranger voulait parler de tel oiseau, donc j'ai essayé de trouver des compte en lien avec les oiseaux dont on voulait vraiment parler dans ce projet. Et plus que l'inverse, en fait. Parce qu'il y avait déjà d'autres contes sur les oiseaux, mais finalement qu'on raconte pas, parce que le lien avec ce que voulait dire et Béranger, mais et aussi le propos du spectacle en lui-même. Voilà, c'est un peu ça. C'est à la fois le choix des oiseaux et qui pouvait faire écho avec ce qu'on voulait dire.
Le choix était difficile ?
Le choix était difficile, non. Non, non, parce que moi, j'aime bien, en fait, partir d'une demande. Hmm. Donc, d'une contrainte, on va dire.
Alors, aujourd'hui, on retravaillait par petits groupes, mais les groupes peuvent changer parce que cette fois, vu que tout le monde connaît... Bah, voilà. Après, on va se débrouiller pour que vous puissiez au moins avoir une transmission d'histoire. Mais en tout cas, tous ceux qui ont entendu les histoires, ont entendu les trois histoires. Même, en réalité, il y en a eu quatre. Donc, aujourd'hui, on peut refaire des groupes, mais vous pouvez choisir l'histoire que vous avez envie de travailler un peu plus et de transmettre. Et en mai, on va se revoir une fois, trois ou deux, pour préparer. Et l'idée, c'est que vous racontiez ces histoires aux autres classes de 6e qui ont aussi travaillé sur le projet. Mais il y a une classe de 6e qui a travaillé plus sur la musique et une autre qui a plus travaillé sur l'ornithologie. Voilà. Donc vous êtes les gardiens de ces histoires.
Parfois... Une cour d'école, ça donne l'impression d'une basse-cour pleine d'oiseaux de toutes sortes. Nous investissons l'espace sonore avec les extraits musicaux qui marquent le début et la fin des cours. Des photographies, des dessins, des maquettes d'oiseaux habillent désormais les couloirs et le CDI. Grâce à Claire et Alix, nous intervenons auprès des classes de 6e et organisons des BIPO, brigades d'intervention poético-ornithologique, dans les autres classes. Claire est professeure de français, Alix, professeure documentaliste. Une résidence, c'est aussi des échanges avec les collégiens, des coups de main, des interviews, des bonjours, des questions ou des regards interrogatifs.
Moi, je m'appelle Béranger, et dans Rossel, je suis ornithologue. Je fais celui qui apporte des informations, qui dit un peu ce que c'est tous ces oiseaux, qui annonce des chiffres, des descriptions de ces oiseaux, dont on parle dans les contes, les musiques. Et moi, je fais ça dans le cadre de mon travail, qui est chargé de mission Natura 2000. Ici, il y a un site Natura 2000. Et donc, ça permet d'avoir une façon un peu originale de communiquer sur les enjeux qui nous préoccupent, à savoir la conservation des oiseaux sur ce territoire.
Durant tes interventions en collège, qu'est-ce que tu as pu faire avec les élèves ?
Moi, j'ai été essentiellement... plusieurs heures dans des cours de SVT de 6e, avec une classe qui était la 6e B, dans les cours de Madame Emmanuelle Cabane, pour parler des oiseaux. C'est original, parce qu'ils travaillaient pas mal sur la classification du vivant, les différents règnes, etc., jusqu'à arriver aux oiseaux. En fait, on a répondu à la question « qu'est-ce qu'un oiseau ?» Et puis on a aussi discuté, échangé, sur une espèce très emblématique du territoire qui, moi, me concerne à travers Natura 2000, qui est l'aigle de Bonelli, un rapace présent ici sur ce territoire et qui est vraiment la pépite du territoire. Une espèce emblématique et qui souffre malheureusement de pas mal de menaces encore. Et donc, on a discuté aussi à travers ces différentes menaces, essayer de voir un petit peu, de les identifier, et puis de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour essayer de les supprimer.
Et c'était quoi les propositions des élèves par rapport à ces menaces, justement ?
Elles étaient de différents ordres, parce qu'il y avait... Enfin, d'abord, essayer de les identifier, et il y avait des plus ou moins originales et réalisable. J'ai souvenir d'une, par exemple, par rapport à la problématique liée aux éoliennes. Les éoliennes, donc, qui peuvent tuer des oiseaux quand elles tournent très rapidement. Et il y a une élève, qui a proposé, par exemple, de mettre de la mousse sur les pales des éoliennes pour, si elles percutent des oiseaux, que ça leur fasse moins mal. Ça, c'est un exemple. Mais sinon, après, on a discuté, par exemple, sur... sur des problématiques plus globales de consommation d'énergie qui a comme conséquence le dérèglement climatique, entre autres, et d'essayer de voir pour essayer de passer dans une ère un peu plus de sobriété et de faire attention à nos consommations, des choses toutes simples et toutes bêtes qu'on peut appliquer tous, tout le temps. Par exemple, éteindre une lumière quand on sort d'une pièce.
Et tu les as sentis, ces élèves, sensibles à cette question de la biodiversité ou des oiseaux ou du vivant ?
C'est quelque chose qui les... Oui, j'ai senti qu'ils étaient un peu émerveillés de tout ça. Mais, ils étaient sensibles à ça. Et puis de savoir qu'il y a des espèces comme l'aigle de Bonelli, hein, j'en parlais, qui est juste au-dessus de leur tête tous les jours, il y avait un air un peu surpris. Et qui ne s'étaient pas forcément rendu compte de ça, mais aussi de la beauté et de la sensibilité d'autres espèces même très communes, qu'on peut avoir autour de soi, comme des choucas, des pigeons, etc., mais prendre le temps de les regarder et de les admirer. Et c'était quoi la question ?
C'est ça.
Ok. Et après, sur la sensibilité par rapport aux menaces qui leur pèsent, une prise de conscience de ça, de la fragilité, de la disparition de ce vivant qui nous entoure.
Est-ce que pour toi c'était intéressant d'intervenir au collège ?
Oui, parce que ça va être toujours important de communiquer, de partager moi, mes connaissances. Je travaille sur ce territoire, j'ai pas envie de travailler de manière hors sol, d'être au contact avec des différents publics, que ce soit des adultes, différentes catégories socio-professionnelles, mais aussi évidemment les enfants.
Et puis c'était des enfants que tu avais déjà rencontrés à l'école primaire, donc qui t'ont eu un peu comme un suivi.
Oui, alors il y en a que j'ai retrouvé effectivement, que j'avais déjà vu quand je faisais des interventions il y a quelques années.
Et qui se rappellent très bien de toi.
Et qui se rappelaient de moi, ça faisait plaisir de savoir qu'ils se rappelaient de moi, mais pas que de moi, mais aussi des choses que je leur avais racontées à l'époque. Mm-hmm. Et que ces enfants, justement, ils sont porteurs aussi de ce message-là. Pour aller vers les adultes qui doivent aussi prendre leur responsabilité par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas que les enfants. On a un peu des facilités souvent à aller vers eux, vers les enfants, parce que c'est un public captif, facile à aller vers eux. Mais la clé pour moi, je pense aujourd'hui, il y a une telle urgence que c'est surtout au niveau des adultes qu'on doit communiquer et que c'est eux qui doivent agir. Et que ces enfants, quelque part, ils vont être porteurs de messages par rapport à leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, tantes, voisins, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer, pour dire l'urgence qu'il y a par rapport à la crise du vivant qu'on subit et qu'on vit en ce moment.
Les lundis et les vendredis, nous recevons Zoé Duponchel. Elle vient nous apporter son regard et sa présence aiguisée comme un œil de rapace.
Je suis comédienne, je joue et je transmets, et je fais des regards extérieurs. Et là, c'est le cas pour Ocel. Donc, ma mission, c'est de, par mon regard, d'interroger le sujet de la création. Voilà, voir avec les comédiens, les intervenants de la création, les participants, s'ils sont toujours dans le sujet et toujours en cohérence avec les enjeux du sujet qu'ils veulent défendre. Donc je suis là pour les embêter, les questionner, les déranger, et puis aussi après travailler sur tout ce qui est jeu d'acteur, rythme, écriture.
Le fait d'être au collège, est-ce que ça amène quelque chose en particulier ?
Alors, ça amène quelque chose quand les élèves ouvrent la porte pour venir voir ce qui se fabrique. Et ça, c'est super. C'est chouette qu'il y ait un aller-retour entre justement la vie du collège et l'art. Qu'est-ce qu'on fabrique ? Et puis, c'est bien d'être en immersion aussi sur un même lieu. Voilà, c'est vraiment intéressant au niveau de la maturité d'un projet artistique. C'est nécessaire d'avoir des étapes comme ça, donc il faut absolument le garder.
Ce matin, plus loin dans la campagne cévenole, les grives s'en donnent à cœur joie. Elles annoncent sûrement la venue de Justin Pivetot, artiste naturaliste, dessinateur, qui vient présenter son travail dans le cadre d'un cours d'art plastique à une classe de 5e.
Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? C'est bon ? Je vais essayer de le dire qu'une fois, la régate. C'est pas très grave si on tape un petit peu dedans, parce que bon, c'est du papier. C'est que des originaux, ça veut dire que ils sont uniques, là, tout ce que vous avez sous les yeux. Donc ça serait bien que vous y touchiez pas, ni avec les doigts, on essaie de pas les faire tomber, on est nombreux dans la même salle. Le mieux, c'est que pour l'instant, peut-être vous vous reculiez un peu, parce que je vais aussi vous montrer des choses de loin. Et après, vous pourrez vous balader pour regarder un petit peu tout. Alors, est-ce que déjà vous êtes au courant tous qu'il y a 3 personnes qui sont dans votre collège depuis quelques semaines et qui sont en résidence ici pour créer et pour peaufiner un spectacle qu'ils ont déjà créé depuis un certain temps? Ouais, vous les connaissez, vous les avez vus? Vous vous êtes vus déjà?
Oui.
Ok. Et ben moi, je suis là une personne en plus qui travaille avec eux sur ce projet pour créer des images pour leur décor. Mon métier, c'est d'être illustrateur naturaliste. Alors, je m'appelle Justin, et puis je suis très content de vous avoir tous là aujourd'hui pour parler un petit peu de ça. Est-ce que vous connaissez déjà ce métier de dessiner pour c'est le dessin naturaliste ou le dessin scientifique? Là, c'est spécialement pour les animaux. Et moi, je suis plutôt... Allez, je suis un peu toqué ou fasciné par les oiseaux, donc c'est avec eux que je passe le plus de temps. Là, tout ce qui sera sur les tables, que vous pourrez voir tout à l'heure, c'est les dessins de 60 espèces d'oiseaux que j'ai fait spécialement pour le spectacle de Solène, Cécilia et Béranger. Voilà, donc ça, c'était une commande de leur part. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'oiseaux qui nous entourent, dehors? Là, quand vous sortez autour de Saint-Hippolyte, autour de chez vous, de vos villages, est-ce que vous imaginez combien d'oiseaux différents il peut y avoir, par exemple, juste dans le département du Gard? Combien d'espèces différentes? Ouais.
Une soixantaine.
152.
152.
100. 100. Ok. Alors, vous savez ce que c'est une espèce ou pas? De différencier. Pourquoi on différencie le rouge-gorge du merle? Ouais, ça, c'est deux espèces différentes.
Parce qu'ils ne sont pas de la même espèce.
Ouais, ils ne sont pas de la même espèce. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils ne se ressemblent pas, et il y a quelque chose... Ouais.
Ils ne peuvent pas avoir de descendance.
Exactement.
Ouais. Et si ils en ont une, elle est forcément fertile.
Elle n'est pas fertile. Voilà, c'est ça, elle est stérile. Donc ça, c'est une bonne définition. Alors en fait, dans le Gard, il y en a un peu plus que ça. Il y a plus de 300 espèces qui passent dans le département. Bon, les chiffres, à la limite, on s'en fiche un petit peu, mais j'avais quand même envie... Je le dis souvent pour qu'on se rende compte de à quel point on est entouré par beaucoup, beaucoup de choses différentes et beaucoup de beautés différentes. Et moi, mon travail, c'est surtout de m'intéresser à cette beauté pour la faire rendre compte, pour la donner à voir à vous ou à tous ceux qui s'intéressent un petit peu à ces images et à ces oiseaux, à ces animaux. Alors avant que vous regardiez de près, je vais vous montrer de loin aussi pour vous expliquer comment je travaille. À votre avis, comment on s'y prend pour dessiner les oiseaux? Comment je m'y prends?
Vous faites un croquis.
Ouais.
Après, vous commencez à passer de la corvette dessus.
Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est ce qui se passe sur le papier. Ouais. Quelqu'un avait une autre idée? Vas-y.
Et il faut d'abord les observer.
Exactement. En fait, le plus gros de mon travail, là où je passe le plus de temps, c'est évidemment dehors. Alors vous me direz, dans les livres, sur internet, dans les appareils photo, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images d'oiseaux, d'animaux, d'insectes, de tout. Mais en fait, ce qui m'intéresse le plus, moi, dans ce métier, c'est d'aller observer les oiseaux pour continuer à apprendre sur eux. Parce que je me suis rendu compte que le dessin, le fait de dessiner, en fait, c'est déjà une manière d'apprendre. C'est déjà une petite science en soi. Le seul fait d'essayer de reproduire, mais même d'essayer de dessiner une chaise, un gobelet, une bouteille, un oiseau, une girafe. En fait, quand on dessine, on est obligé de comprendre ce qu'on est en train de regarder. Si vous essayez de dessiner le portrait d'un ou une de vos camarades, vous allez devoir comprendre comment est fait son visage, qu'est-ce qui fait que ça va lui ressembler. C'est pas juste de savoir dessiner. Savoir dessiner, ça c'est une capacité, c'est un outil. On sait bien dessiner ou moins bien dessiner, ça se travaille. Mais ce qui est important, c'est de savoir regarder pour comprendre. Et moi, avec les oiseaux, j'ai mis beaucoup de temps, quand j'ai commencé à faire ça, à comprendre comment est fait un oiseau. Comment sont placées ses plumes, comment est repliée son aile quand il a les ailes pliées, à quoi ça ressemble quand l'aile est ouverte. Et ça demande énormément de temps passé à observer et puis avec son crayon d'essayer de reproduire. En fait, j'observe avec ma longue vue. Vous savez ce que c'est une longue vue? C'est un peu comme une paire de jumelles, mais souvent on peut zoomer beaucoup plus. Un peu comme un télescope pour regarder les étoiles. Donc c'est sur un trépied, et j'essaye de trouver les oiseaux que je cherche, de les observer assez longtemps pour pouvoir dessiner. Et en fait, ce assez longtemps, souvent, il dure pas longtemps du tout. Des fois, c'est quelques secondes, quand j'ai de la chance, plusieurs minutes. Et puis parfois, pour certains oiseaux, ça peut durer vraiment longtemps. Mais souvent, en fait, en quelques secondes, il faut essayer d'esquisser un croquis pour essayer de trouver l'attitude de ce que je suis en train de regarder. Alors ici, par exemple, là, c'est les circaètes Jean Leblanc. Je vous montre celle-ci parce que c'est un peu mes chouchous aussi. C'est des oiseaux que j'aime beaucoup, que je vais beaucoup observer. Alors, c'est des grands rapaces qui sont en ce moment partis en Afrique et qui ne mangent que des serpents. Alors, donc s'ils sont en Afrique en ce moment, c'est parce qu'ici, il n'y a pas de serpents l'hiver. Ils sont endormis. Donc ils repartent en Afrique et ils reviennent au mois de mars. Et ils ne font qu'un seul œuf chaque année. Et s'ils y arrivent, il y a un poussin. Donc là, ce qu'on voit, c'est le jeune avec sa couleuvre dans la bouche. La maman vient de lui amener un serpent sur le nid et elle est en train de le nourrir. Alors c'est des scènes. Cette scène-là, elle n'a pas duré très longtemps. Ça a duré quelques secondes, j'ai esquissé, mais je suis resté 10 heures ce jour-là, caché dans les buissons, à essayer d'observer les circaètes, de voir les parents qui viennent nourrir. Ce qui fait que tout au long de la journée, je dessine tant que je peux, tant que je vois quelque chose. Et petit à petit, j'arrive à reconstituer pour faire des croquis avec le plus possible d'informations. Alors ces informations, des fois, elles vont être aussi un petit peu notées. Par exemple, là, j'ai croisé un pipitre rousseline, ça n'a pas duré très longtemps. Et bien, je prends aussi des petites notes de comment est fait son plumage, quelle couleur, la lumière, pour essayer de faire travailler ma mémoire et que quand je rentrerai chez moi, le soir, je pourrais faire une mise en couleur, comme je l'ai fait ici pour ces oiseaux-là. Mais souvent, quand je rentre chez moi, après avoir travaillé toute la journée dehors, on va dire que mes dessins, ils vont ressembler peut-être plus à ça, tout en noir et blanc. Parce que j'ai pas eu le temps de faire de l'aquarelle dehors. Ce que je fais parfois, mais ça demande un autre travail. Toi, t'as une question ? Ah ben ça, c'est parce que tu es loin et c'est parce que le dessin est réussi, si on dirait que c'est au moins une photo. Après, j'ai pas toujours envie que ça ressemble à une photo. Là, tu vois, quand on a simplement des bouts comme ça, en fait, je cherche pas à faire des photos. D'ailleurs, je pourrais, en fait, prendre une photo de ce que je vois, rentrer chez moi et dessiner. Mais ça m'intéresse un peu moins. Parce que si la photo, elle est faite, eh ben, ça sert à rien que je dessine en plus. Et en fait, le fait de dessiner, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, ça m'oblige à apprendre, à comprendre les oiseaux. Si je prends une photo et que j'essaye de la refaire, j'ai moins besoin de savoir ce que je suis en train de faire. Il suffit que je reproduise. Et c'est ça l'intérêt du dessin, ce qu'on appelle sur le vif de l'instant. C'est-à-dire, je vois quelque chose très vite, je mémorise et j'essaye de faire tout en regardant. Alors l'avantage, je ne l'ai pas amené ici, mais c'est qu'avec la longue vue, comme elle est sur un trépied, en fait, ça me permet d'avoir un peu un œil dedans et puis un œil sur le papier. Donc j'arrive à très rapidement dessiner ce que je suis en train de voir. Si je devais le faire avec les jumelles, il faudrait que je trouve l'oiseau, par exemple cet aigle royal qui passe très très près, le regarder, mémoriser, lâcher les jumelles, dessiner.
Entre le mouvement, vous prenez, vous regardez, vous posez.
Oui, c'est ça. Alors, il y a une perte de temps. Et puis, en plus, les oiseaux, comme ils bougent, ouais. Ben, je le perds. Alors ça arrive très souvent. Il change de perchoir, il change d'endroit où il va se cacher. En fait, je dessine toujours dans l'urgence, en me disant que l'oiseau va s'en aller. Je suis obligé de faire comme ça, parce que si je prends mon temps, je commence à le voir, et puis je commence à dessiner les détails du bec, et que j'ai pas du tout dessiné l'oiseau dans l'ensemble, bien souvent, il sera parti, je vais rentrer chez moi, j'aurai un bec. Et ça va pas me servir à grand-chose. Donc c'est pour ça que très vite, hop, je fais des grands coups de crayon. Vous voyez, ça, c'est de la mine de graphite, donc c'est de la mine de plomb. Et en fait, comme c'est très gros, ça m'oblige à faire grand et rapide. Avec ce genre d'outils, je peux pas me mettre à dessiner comme ça et à prendre des petites notes. Mais c'est intéressant, parce que ça m'oblige à la vitesse. Et la vitesse, ça peut donner, par exemple, qui parle un petit peu, puisqu'on parlait de l'aigle royal. Vous voyez, il y a un peu moins de détails, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de capter l'attitude, le mouvement, la lumière, qu'est-ce que l'oiseau est en train de faire, pour essayer de redonner sur le papier l'émotion de ce que moi j'ai vu. J'ai trouvé quelque chose d'absolument magnifique dehors, j'essaye de le dessiner pour que cette beauté, elle continue à exister sur le papier. En fait, c'est ça que je cherche à faire. Avant que vous passiez, regardez tous ces oiseaux autour. Il y en a qui ont un petit peu des questions sur ce travail que je fais. Ouais. Alors, tout ce qui est là, oui. Alors, ce qui est sur les tables, en fait, ça, c'est ce qui va servir à Solène, Cécilia et Béranger pour le spectacle qu'ils sont en train de créer. Ça va être... alors là, ça, c'est la partie originale, c'est croquis aquarelle. Donc, toutes ces images, elles vont être numérisées, donc avec un scanner sur l'ordinateur, pour en faire des cartes. Chaque oiseau sera sur une carte et ils seront épinglés dans le décor pour leur spectacle.
Ouais. Votre métier, dessiné ?
Alors, c'est en train de le devenir. Je ne vis pas encore complètement de ça toute l'année, mais c'est une grande partie de mon métier. Ouais. Et c'est un peu le but. Si j'arrive à vivre de ça entièrement un jour, je serai le plus heureux du monde.
Aujourd'hui, Léna et ses camarades font un interview des artistes en résidence et c'est le temps des questions.
Ça, c'est toutes les questions qu'on t'a posées, c'est ça?
Oui.
Oh, ah oui.
Moi, ce que je vais poser, surtout, ça va être trois parce qu'il y en a plus. Ça va être compliqué parce que, par exemple, pourquoi les oiseaux...
existent-ils, c'est ça?
Oui, pourquoi les oiseaux existent-ils? On va l'enlever, enfin, ça sert à rien, quoi.
C'est quoi ta réponse à toi? Pourquoi les oiseaux existent-ils?
Bah, pour moi, les oiseaux, ça existe parce que bah, ça existait. Enfin, je sais pas. Les oiseaux sont apparus bien avant nous.
Et pourquoi tu fais de la radio, toi, alors? Qu'est-ce qui te plaît?
Je sais pas. C'est... Vous m'enregistrez, là?
Non.
Ah. Je sais pas. Enfin, j'aime bien parler. Je suis de la tâche.
Dans la boîte à lire,
t'as la tâche.
Du coup, j'ai toujours... Et je sais pas, c'est intéressant. Enfin, ouais. Ça permet de faire d'autres choses, quoi.
Ok. Du coup, c'est ta première année?
Ouais.
Là. Et tu te régales?
Ouais, franchement, oui. Ben, après, on avait fait un genre, on va dire, pas à l'oral, mais on avait fait un genre de truc radio en cours. Nous, on avait fait carrément un journal. Donc, okay. C'est plutôt facile.
Et là, tu trouves ça difficile?
Non, c'est plutôt facile. Ouais.
Tu me racontes aussi ce qui s'est passé une fois que tu es venue me voir, là. Tu sais?
Ah oui, il y a eu un oiseau coincé dans le gymnase.
Et qu'est-ce qui s'est passé, la suite?
Après, l'oiseau, il est resté en haut, il a eu trop peur, il s'est caché et tout.
Et quand finalement,
je suis revenue, il est parti.
Il était parti par où, tu sais, ou pas?
Non. Mais je pense qu'on a dû laisser les... Il y a le prof, je pense qu'il est revenu parce qu'il faisait froid. Je pense qu'il a laissé les fenêtres ouvertes après.
Je t'ai enregistré.
Vous êtes sur Radio Escapade et vous écoutez l'Ornithoquoi. Vous retrouverez Léna et puis ses collègues et puis nous aussi qui avons été interviewés dans le cadre de l'émission qui s'appelle Galabert City. C'est le mardi après-midi, hein, c'est bien ça. Voilà, la semaine prochaine, je crois. On continue l'Ornithoquoi avec un petit peu de musique. Thank you.
Reculons. 5 marcassins sur un brin de romarin. Donnez-moi la main, monsieur. Donnez-moi la main, madame. 4 abricots sur le béret d'un matelot. Mettez vos souliers, monsieur. Mettez vos souliers, madame. 3 allumettes sur un patin à roulettes. Dansez la polka, monsieur. Dansez la polka, madame. 2 saucissons sur le dos d'un hérisson. Mouchez votre nez, monsieur. Mouchez votre nez, madame. 1 koala sur une mousse au chocolat. Fichez donc le camp, monsieur. Fichez donc le camp, madame. Car elle est pour moi la mousse au chocolat, rien que pour moi, na. Bernard Friot. Luna.
Eh bien, merci Luna. C'est le moment des remerciements, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Puis en plus, on est à l'heure, c'est bien ça. Alors, pour oublier personne, on va essayer de faire dans l'ordre, comme d'habitude. Merci à Lily pour le Naturo Quiz. Merci à Cécilia pour l'enregistrement et le montage audio au collège de Saint-Hippolyte-du-Fort. Et merci aussi à toutes les personnes et les voix qu'on entend dans ce montage. Solène, Zoé, Léna, et puis tous les gens qui étaient au collège qui nous ont accueillis, etc. Merci beaucoup pour tout ça. Merci aux enfants de l'école publique de Sumène qui nous ont encore proposé différentes poésies ayant ponctué cette émission. Merci évidemment à toute l'équipe de Radio Escapade. Merci à Fabien qui était à la régie encore aujourd'hui. J'ai mon conducteur qui ne marche plus, si. Merci à la communauté de communes des Cévennes, Gangeoises et Suménoises qui m'embauche et qui me permet de faire cette émission dans le cadre de mon travail. Et surtout, un grand merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Si vous souhaitez rester informé de nos nouvelles, je vous rappelle qu'il y a toujours la page Facebook du site Natura 2000, Gorge du Riotor, Fage Cagnas, pour ceux qui sont connectés. L'adresse sur Facebook, c'est Nature à 12 000. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, portez-vous bien.
Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagnés d'un ornithologue.
Ornitho quoi ?